France Musique. France Musique, les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Hopkinson Smith, je suis né à New York en 1946 et je suis musicien.
Quand vous êtes enfant et que vous avez la possibilité de connaître quand même l'Europe, sans doute plus que beaucoup d'enfants américains, c'est grâce vrai. À votre père,
oui.
Vous aviez déjà une forme d'attirance quand vous vous promenez en Italie, en Allemagne, peut-être en France, dans tous ces pays-là. Est-ce qu'il y avait quelque chose déjà qui retenait votre attention ou votre émotion?
Oui, oui. Je crois que c'est une certaine fascination, que c'est pas la fascination d'un adulte, mais c'est quand même quelque chose qui est étrange et nouvelle et qui attire et on veut savoir et on écoute les langues, on essaie de parler quelques mots et tout ça, oui.
Votre père lui parlait d'autres langues?
Il n'était pas très bien doué pour les langues, mais il était fasciné et il était toujours très impressionné que moi, dans l'italien, dans l'espagnol, dans le français, etc., que j'avais une certaine possibilité d'expression que lui me manquait.
Votre frère aussi?
Mon frère, il parle le chinois, le tibétain, le japonais. Il connaît un peu le perse. Et il parle français, plus ou moins, un peu l'italien. J'ai oublié quelque chose peut-être, mais ça c'est la base.
Ah oui.
Donc... Le chinois, il est tout à fait convaincant. Il a les gestes, les mouvements et tout ça. C'est impressionnant.
Finalement, vous avez chacun développé, en tout cas, une envie d'ailleurs. De lire d'autres...
Oui, c'est vrai.
De lire aussi d'autres alphabets.
Pour les alphabets, j'ai commencé l'arabe. Quand j'avais fini cet été en Santiago de Compostela, j'étais une demi-année au Liban parce que je voulais apprendre l'arabe. Et donc j'étais dans une école, j'ai fait les premiers pas pour écrire et lire et parler un peu. C'était une année clé pour moi parce que mon père, à cette époque-là, il était en Inde. Il préparait tout un projet sur l'architecture de l'Inde. Et moi, j'avais quitté l'école, j'avais ras-le-bol d'étudier comme ça et j'ai fait par le Moyen-Orient en autostop. Par la Syrie, la Jordanie, l'Irak, jusqu'à Koweït. Et après, je suis parti en avion...
Pour aller en Inde.
En Inde. Et j'étais demi-année en Inde. Et là, quand j'étais là en Inde, j'ai étudié un peu la musique indienne du Nord. Mais surtout, j'ai retrouvé le besoin de m'exprimer, de me former, de me élaborer avec la sonorité des copains. C'est la guitare classique, là, où... où c'est devenu une nécessité de jouer cet instrument.
Oh, parce qu'il y avait le oud quand vous étiez au Liban aussi.
Oui, oui. J'ai jamais vraiment entré dans la musique arabe, mais c'est sûr qu'il y a des traditions très riches. Oui.
Oui, donc vous avez fait une sorte d'année sabbatique.
Tout à fait, qui m'a donné une direction pour le reste. Quoi. Je crois que si quelqu'un... sort d'une tradition d'enseignement très stricte et quelquefois très étroite et très un peu autoritaire, c'est très très important de couper les liens et de faire autre chose vraiment pour ne pas que continuer dans une direction acceptable et tout ça, mais de vraiment trouver quelque chose qui t'anime et qui t'inspire et qui te donne une énergie propre.
Bâtez-le, ya habibi, roux. Bâtez-le, roux.
Vos parents vous ont toujours suivi et soutenu?
Ils ont été surpris. Mais je ne peux pas dire qu'ils étaient contre. Simplement, ils le voyaient comme quelque chose que je voulais absolument faire. Mais je dois dire qu'au moment où j'ai acheté mon premier luth, qui coûtait 800 $, ma mère m'a dit, mais pense au numéro de manteau d'hiver que tu aurais pu acheter pour cet argent. Mais ils étaient surpris et contents avec le déroulement finalement que j'ai pu faire avec les instruments et tout ça.
Ils ont été témoins de vos concerts, de votre épanouissement en musique, ils sont venus vous voir
De temps en temps, parce qu'à cette époque-là où j'ai commencé à beaucoup jouer, j'ai eu des tournées aux États-Unis une ou deux fois par an, donc on s'est réunis ici et là. Et une fois en Italie, ils étaient là quand j'ai joué, soit en 85 par exemple.
Alors avant 85, il y a quand même les années 70, parce qu'on était au Liban et puis en Inde.
Après, j'ai commencé l'université.
Vous rentrez donc aux États-Unis.
Voilà. Et j'étudie...
Vous rentrez dans le rang quand même. Vous avez fait un an de voyage un peu initiatique et puis vous retournez faire des études bien droites quand même, à l'université, etc. Avec la passion.
Oui, mais j'ai concentré à l'université en musique. Et donc, c'est pas un instrument que tu fais à l'université comme Harvard, là où j'étais. Mais il y avait beaucoup de musicalité dans l'air. Et il y avait une autre personne, une femme, qui m'a énormément influencé, c'est Louise Voskertchen. Elle était la personne qui gérait l'étude de base de piano. Parce qu'il fallait, dans la première année d'harmonie et contrepoint, il fallait tout faire au clavier et de faire des transpositions et de faire des élaborations et d'inventer des accompagnements. Donc elle était élève de Nadia Boulanger, donc elle venait d'une très profonde tradition. Elle communiquait non seulement tout ce savoir du clavier, mais aussi un enthousiasme, un amour pour la musique qui était très positive. Il y a beaucoup de gens qui ont passé par elle, qui l'a toujours appréciée. Elle est morte trop tôt. On avait tellement de choses à parler encore. Et je me souviens, la première fois qu'on avait parlé des traits d'archer dans Bach, le violon de Bach, c'était avec elle. Et on avait étudié, on voulait savoir, on avait des idées, on comparait, beaucoup de choses très stimulantes. Et elle avait des yeux comme ça pour le moment de création et de compréhension. Elle aimait bien suivre le procès du cerveau du musicien pour que le pensée soit aussi bien fondée et réalisée que possible. Et j'étais un peu faible en piano comparé avec beaucoup des élèves dans le cours. Et pour ça, j'ai eu la chance d'avoir des cours de piano avec elle à 7h30 le matin.
Vous aviez des petits cours en plus.
Voilà, c'était très bien. Et une fois, j'étais tellement fatigué parce que quelquefois la vie est tellement chargée à l'université. Il y a tellement de choses à faire, non seulement la musique, mais les mémoires, rendre et tout ça. Et une fois, je ne pouvais pas me lever pour la classe de piano et... Un peu plus tard, le même jour, je lui ai amené des fleurs, je crois, une bouteille de vin ou quelque chose pour essayer de m'excuser, parce que c'est inexcusable, ça.
Au piano, Louise Voskertchen. Et alors, dans ces années d'Harvard, je crois que John Ward est quelqu'un de très important aussi pour vous.
John Ward, c'est le père et le grand-père de quelques générations de musicologues aux États-Unis. Et pas que aux États-Unis, il y avait des étrangers qui venaient étudier avec lui, qui était quelqu'un qui commençait toujours avec la musique même. Et c'est important de lire les livres, c'est important de lire les articles, c'est important de faire la recherche, mais il faut commencer toujours avec la musique. Et là, j'ai fait 2 années d'analyse musicale avec lui, à deux. C'est lui et moi. Et donc, j'ai analysé toutes les fantaisies de Narvaez, Luis de Narvaez, Francesco da Milano.
Et donc, il était musique ancienne quand même.
Musique ancienne,
pour,
oui.
Préciser aux auditeurs.
Oui, voilà. Oui. Et il avait fait son thèse de doctorat sur la vihuela. Donc, il était très dans le monde latin, de l'Europe à la Renaissance.
Il avait voyagé ?
C'est sûr, il voyageait plutôt dans son bureau. Il était un peu ici et là, c'est sûr. Mais ses découvertes n'étaient pas dans le genre biographique, bibliographique, ou bien sur les détails des vies des compositeurs, mais surtout de leur musique.
Et comment il enseignait alors ? Quand vous dites ces 2 années de face à face.
Oui, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, je ne savais pas quoi dire, il y a un motif, et qu'est-ce qui se passe après ? Ah oui, c'est le même motif, et maintenant, et il y a combien de mesures ici ? Il y a 5 mesures ici, 6 mesures ici, ça fait 11 mesures. Est-ce que c'est normal, 11 mesures ? Non, c'est pas normal, parce qu'il y a une extension de ça. Il a facilité une manière de regarder la partition et de le voir, et voir ce qui se passe sans nécessairement le jouer tout de suite. Et donc... Si Luis Voskirchen avait beaucoup développé l'oreille musicale, John Ward avait beaucoup développé l'œil du musicien pour essayer de comprendre et pour analyser une composition. Et je dois dire, beaucoup de la technique que j'ai appris avec lui m'a servi pour tous les projets que j'avais fait depuis.
Une manière d'analyser, de regarder la musique.
Et de comprendre... quelque chose dans un contexte plus général, musical.
Musique, l'écran entretien de Hopkinson Smith.
Pendant ces années-là d'Harvard, vous en êtes où, Hopkinson Smith, de la pratique musicale ? Qu'est-ce que vous pratiquez ? Vous jouez de quoi ? Vous avez votre luth à $800 ?
Non, j'avais la guitare classique et je dois dire, mais c'est une histoire que j'ai déjà racontée plusieurs fois, mais c'est intéressant. Je promenais souvent en Cambridge, Massachusetts, là, et j'ai passé à côté d'une maison où il y avait des instruments très intéressants qui pendu sur le mur dedans, Donc, on passe dans la rue, on regarde sur... Et une fois, j'ai touché le timbre, j'ai dit, c'est quoi ces instruments, je veux apprendre. C'était la viole de gambe. Et c'était un prof de MIT qui est pour la technique, pour l'ingénieur, qui jouait la viole de gambe comme amateur. Il m'a mis en contact avec sa prof de viole de gambe. Et j'ai commencé des leçons de viole de gambe. Et une fois, elle était...
Donc vous avez joué, vous avez appris la viole.
J'ai commencé la viole. Je ne dirais pas que j'avais appris, mais j'ai commencé, j'ai joué en consorte. Et j'aimais bien, et elle s'appelait Jeanne Lyman-Silbiger. Elle était une Canadienne qui jouait très très bien. Elle était la seule vraiment à Boston que je connais qui jouait ça. Et donc une fois j'ai joué pour elle à la guitare, parce que j'avais un concert à la guitare et je voulais lui montrer ce que je faisais. Et donc quand j'ai terminé, elle m'a dit... Mais si tu joues cette musique, c'était la musique surtout de la Renaissance, et si tu joues la guitare comme ça, il faut que tu joues du luth. Et je n'avais pas vraiment grand intérêt, j'étais curieux, c'est sûr. Mais c'est elle qui avait organisé que je pouvais avoir un instrument prêté de la collection de musique, des instruments de musique du musée de Boston. C'était pas un instrument historique, c'était un instrument fait par un constructeur local, le même qui a fait le luth après pour $800. Et j'ai commencé à jouer un peu le luth. Et donc, après une année, j'ai commandé un luth. Une année après, j'avais mon propre luth. Et j'avais beaucoup plus de choses à faire au luth qu'à la guitare. Tandis que je me considérais plutôt guitariste que luthiste, mais l'histoire s'est développée dans un autre sens.
Dans ces années-là d'Harvard, est-ce qu'il y a des concerts qui vous marquent?
Il y avait Julian Bream qui venait chaque automne à Boston. Et il y avait un concert où j'ai assisté, ça doit être 1966 ou 67, où je ne pouvais pas dormir après. Ça m'a tellement marqué. Et ça m'était de nouveau très clair ce que je voulais faire.
Parce que c'est un luthiste.
Il est luthiste et guitariste, mais surtout, il est un personnage très communicatif. Et il avait une clarté dans le geste musical et physique et une énergie positive qui était...
communicatif.
Voilà. Et donc, c'était un moment où, de nouveau, je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. Parce qu'on entre dans l'université, il y a une partie de l'université que te met à bien étudier, et suivre et avancer sans toujours te demander si c'est ce que tu veux vraiment faire. Et donc, après ce concert, je suis allé à le département de musique et j'ai dit, donc j'ai beaucoup de choses à faire avec la guitare et j'aimerais bien pas suivre 4 cours chaque année, mais maintenant après la première année, je veux faire 3 cours en 4 ans au lieu de 4 cours en 3 ans pour terminer. Et donc, on m'a accepté dans ce programme. Et donc, J'ai eu un peu plus de temps officiellement pour travailler l'instrument, et ça, c'était très bien. Mais ça, c'est par exemple un concert où j'étais ébloui, qui m'a aussi fait une sorte d'ouvrir une porte à mes propres besoins. Peu à peu, je me suis rendu compte qu'il existait toute une série d'endroits où on pouvait étudier la guitare en Espagne, à l'étranger aussi. Et il faut dire que pendant cette période, à Harvard, pendant 3 années, j'ai suivi les cours d'été d'Emilio Pujol.
En Espagne ?
En Catalogne, à Cervera de Segarra. Donc c'était un cours de guitare et de musique ancienne aussi. Et donc pour le matin, d'une heure à deux heures et demie, c'était la musique moderne. Et l'après-midi, c'était la musique ancienne. Et j'ai presque chaque jour joué dans la classe de musique ancienne. Parce qu'il y avait beaucoup de guitaristes qui jouaient le matin. Et donc... C'est aussi un complément qui marque un peu une direction intérieure.
Parce qu'il jouait de la viola aussi.
Il était un des premiers qui avait joué de la viola. Il a fait le premier concert au XXe siècle, je crois, en 1936, à Barcelone, de la viola. Donc il a fait plusieurs éditions de musique de viola dans le Monumentos de Musica Española, la série de... édition musicologique de source espagnole. Et donc, il y a une série de choses qui m'accompagnent. Et donc, Pujol était un de mes grands figures dans ma vie, qui reste toujours un grand figure, pour sa manière de communiquer son amour pour l'art et la conception de sonorité qu'il avait très profondément.
C'est sur cette évocation cubaine d'Emilio Pujol par Ida Presti que se referme le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Hopkinson Smith. Réalisation François Connac, prise de son Virginie Lorda, mixage Dofar Guérid, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Suite de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur l'application Radio France. À réécouter sur francemusique.fr.